Europe 1, le 22-22-30, Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue dans le journal de la nuit, nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Malgré tous nos efforts, nous sommes encore loin de l'objectif de passer sous la barre des 5000 cas par jour.
Il faudrait diviser par deux le nombre de cas quotidiens de contamination et ce, en seulement une semaine. L'objectif fixé par Emmanuel Macron pour lever le confinement le 15 décembre sera très difficile à atteindre selon le directeur général de la Santé. Et pour cause, les chiffres stagnent depuis quelques jours. Pire, ils augmentent même dans le Grand Est et en Occitanie. Alors faut-il d'ores et déjà envisager un report du déconfinement? Le gouvernement étudie toutes les options. Nous irons à Londres où le Royaume-Uni se prépare à débuter dès demain les vaccinations. Nous irons également à Bruxelles où ce même Royaume-Uni provoque des migraines aux dirigeants de l'UE. Il y a toutes les chances pour que les négociations post-Brexit échouent, estime ce soir le gouvernement britannique. Dans ce journal également, la colère de Nicolas Sarkozy au procès des écoutes, les fouilles dans les Ardennes pour retrouver le corps d'Estelle Mouzin et puis le foot. Les Bleus connaissent les adversaires qu'ils devront battre pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2022. On entendra la toute première réaction de Didier Deschamps. Le temps de demain, hivernal, avec encore pas mal de pluie en pleine et de la neige sur les reliefs. Attention au vent dans le sud-ouest, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en baisse, moins 0,64% à 5573 points. Tous les détails à venir avec Didier Hameau de boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes. Elle va revenir sur cette annonce importante. Les assureurs ont accepté de geler les primes en 2021 des secteurs les plus touchés par la crise. La réaction ce soir en exclusivité du PDG d'AXA en France, Jacques de Peretti, répondra aux questions d'Emmanuel Duteil. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
J-8 pour atteindre l'objectif affiché par le gouvernement. 5000 cas par jour, c'est la condition fixée par Emmanuel Macron pour sortir le pays du confinement le 15 décembre. Or, avec 10 000 nouveaux cas en moyenne la semaine dernière, l'objectif sera très très difficile à atteindre, comme l'a confirmé ce soir le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.
Malgré tous nos efforts, nous sommes toujours face à un risque élevé de rebond épidémique. La diminution du nombre de cas positifs, après une forte baisse, marque le pas depuis maintenant une semaine. Nous devons être vigilants devant cette évolution récente, mais nous sommes encore loin de l'objectif de passer sous la barre des 5000 cas par jour. Le virus va continuer à circuler activement au cours des prochains mois. Pourquoi ? Les conditions d'humidité, de température font de l'hiver la saison idéale pour la propagation des virus à transmission respiratoire. Les fêtes de fin d'année font craindre que des contaminations importantes intrafamiliales aient lieu. Et donc je passe un message très clair de prévention, de protection renforcée des personnes les plus fragiles, de nos proches, de nos aînés.
La mise en garde du directeur général de la Santé, Victor Dolande, vous avez suivi attentivement cette conférence de presse de Jérôme Salomon et il y a un point qui préoccupe les autorités, c'est que dans certaines régions, l'évolution de la situation ne va pas du tout dans le bon sens.
Oui, 6 régions sont vraiment dans cette stagnation. Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, la Bretagne, le Centre-Val-de-Loire, les Pays de la Loire et la Corse. Dans 2 régions, on observe même une légère augmentation du nombre de cas. Il s'agit de l'Occitanie et du Grand Est, où certains départements enregistrent un taux d'incidence de plus de 150 contaminations pour 100 000 habitants. Autre source d'inquiétude, le niveau de contamination toujours élevé chez les personnes de plus de 75 ans, celles qui ont le plus de risques de faire une forme grave de la maladie. Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a donc invité les Français à continuer à respecter les gestes barrières. En ligne de mire, les fêtes de Noël, bien sûr, avec de nombreuses réunions familiales. Il faut faire attention pour préserver ses proches. Un épidémiologiste me résumait ainsi la chose tout à l'heure. Noël se prépare maintenant si on veut voir ses proches et notamment des personnes fragiles. Soyons vigilants dans les 15 jours qui précèdent Noël pour être sûr de ne pas attraper le Covid avant d'aller les voir.
Merci Victor Dolande du service Société d'Europe 1. C'est donc un casse-tête, un de plus, qui se profile pour l'exécutif. Va-t-il falloir revoir le calendrier, annoncer aux Français qu'ils ne pourront pas finalement réveillonner en famille, même en petit comité? On n'en est pas encore là, mais le gouvernement va peut-être devoir imaginer de nouveaux aménagements pour ce déconfinement partiel, Aurélie Herbemont.
Et oui, au sein de l'exécutif, cette date du 15 décembre qui approche à grands pas est dans toutes les têtes. Synonyme de levée du confinement, comme l'avait annoncé Emmanuel Macron. Synonyme de déplacement partout dans le pays sans attestation pour fêter Noël. Synonyme aussi de réouverture des théâtres, cinémas et autres musées. Alors face à ce plateau du nombre de contaminations, on cogite en coulisses. Faudrait-il ne pas rouvrir tout ce qui était prévu ? Faudrait-il un couvre-feu plus drastique ? Rappelons qu'il était programmé entre 21h et 7h du matin. En clair, faudrait-il restreindre les allègements promis ? Ces questions seront au menu du Conseil de défense qui doit se tenir mercredi matin et qui examinera les chiffres lissés sur 7 jours pour voir s'il s'agit juste d'un frémissement ou d'une reprise. On est dans un moment tendu, reconnaît-on au ministère de la Santé. L'exécutif appelle donc encore et toujours à la responsabilité de chacun, car comme le dit un conseiller, pour passer Noël, il ne faut pas que ça remonte trop avant.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Chez nos voisins anglais, la préoccupation du moment, c'est la vaccination, dont le top départ sera donné demain. Mais au-delà de la fierté d'être le premier pays au monde à avoir autorisé le déploiement du vaccin Pfizer, la Grande-Bretagne fait face à un immense défi logistique. Johanna Chabas, vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1 à Londres. Est-ce que tout est prêt ?
Eh bien, les autorités, elles l'assurent, oui, tout sera prêt demain matin, mais elles admettent aussi que c'est un énorme défi. Le vaccin doit être conservé à moins 75 degrés, ne peut être déplacé que 4 fois, impossible donc de l'amener dans une maison de retraite. Les doses sont stockées dans 50 hôpitaux habilités et les prioritaires seront les plus de 80 ans et les personnels des EHPAD qui peuvent s'y rendre. Nick Mann est médecin généraliste, il fera des vaccinations dès la semaine prochaine et selon lui, il y a encore beaucoup d'inconnus.
On nous a donné des informations contradictoires. On a des problèmes pour savoir qui on peut vacciner, combien de personnes on vaccine par jour. On ne sait pas de combien de vaccinateurs on aura besoin. Tout ça nous est tombé dessus, mais on va faire en sorte que tout le monde ait accès au vaccin.
Les autorités doivent aussi s'assurer que ceux qui sont vaccinés demain seront bien disponibles pour un rappel dans 3 semaines. Sinon, le vaccin est inutile. Le Royaume-Uni ne sait toujours pas quand les prochaines doses vont arriver. Et avec le Brexit, à la fin du mois, certains s'inquiètent. Selon les médias britanniques, les avions de l'armée pourrait être mobilisé pour récupérer les vaccins en cas de retard à la frontière.
Johanna Chabas à Londres pour Europe 1. Au Danemark, les autorités serrent à nouveau la vis face à la flambée de cas. À partir de mercredi, fermeture des collèges, lycées, bars, cafés et restaurants dans 38 communes du pays, dont la capitale, Copenhague. La même chose pour les bibliothèques, les salles de sport, les théâtres et les cinémas. Enfin, en Grèce, où la situation ressemble à celle que nous vivons en France, les chiffres baissent, mais pas suffisamment rapidement. Athènes a donc décidé de prolonger le confinement jusqu'au 7 janvier. Les négociations sur l'accord post-Brexit toujours dans l'impasse. Pire, il y a toutes les chances pour qu'elles échouent, déclare ce soir le Royaume-Uni. Isabelle Horry, vous êtes notre correspondante à Bruxelles, où tout va se jouer dans les prochains jours puisqu'on attend la venue du Premier ministre britannique Boris Johnson.
Et oui, c'est l'annonce de la soirée. Hein. Il y aura ici, dans les prochains jours, une rencontre au sommet entre le Britannique et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Après 2 coups de fil en 48 heures et des négociations qui n'ont absolument rien donné entre leurs équipes ces derniers jours, les deux dirigeants ont estimé que les conditions pour finaliser un accord n'étaient toujours pas réunies. Ils vont donc tenter eux-mêmes de résoudre les nœuds de crispation qui sont toujours les mêmes depuis des mois. Les désaccords, on le sait, portent sur la pêche, sur la manière de garantir une concurrence équitable à l'avenir et sur la mise au point d'un mécanisme pour résoudre d'éventuelles disputes. Jeudi et vendredi, les 27 dirigeants des pays européens, dont Emmanuel Macron, seront eux aussi en ville. Mais l'idée, c'est de ne pas les impliquer et plutôt d'essayer de trouver une solution avant leur sommet. Le face-à-face décisif pourrait donc avoir lieu mercredi.
Merci beaucoup Isabelle Horry, en direct de Bruxelles pour Europe 1. La secousse de trop, le séisme vendredi à Strasbourg d'une magnitude de 3,5 a poussé la préfecture du Bas-Rhin à sévir. Elle annonce ce soir l'arrêt définitif des travaux sur le site de la centrale géothermique au nord de la capitale alsacienne. Projet pointé du doigt après la série de secousses survenues depuis fin octobre.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
Il avait promis de répondre à toutes les questions au nom de la vérité. Nicolas Sarkozy a été interrogé cet après-midi au procès dit des écoutes. Un ancien président en colère et qui l'a fait savoir, Guillaume Bier.
Europe Soir. Oui, dès le début de son audition, Nicolas Sarkozy, solidement appuyé à la barre, a voulu s'adresser solennellement à la Cour. « Je n'ai jamais commis le moindre acte de corruption », clame l'ancien président. Pugnace, en colère, il déroule, geste à l'appui, sa vision de l'affaire. L'affaire du siècle, dit-il avec ironie, c'est ma présence seule qui déchaîne tout ça. Et il insiste sur ce pacte de corruption pour lequel il est jugé. Il n'y a pas eu le moindre début de réalisation. Je veux être lavé de cette infamie, poursuit-il. Puis Nicolas Sarkozy évoque ses écoutes, tronquées, coupées, reconstruites, qui donnent une image pervertie de la réalité, selon lui. Si WhatsApp ou Telegram avaient existé, j'aurais pas eu besoin de Bismuth. Bismuth, c'est le WhatsApp de 2014, lâche l'ancien président. Face aux questions de la présidente sur le contenu des fameuses écoutes, Nicolas Sarkozy se défend avec énergie, toujours. Il explique qu'il faisait confiance à son avocat Thierry Herzog, un frère, dit-il, mais il reconnaît qu'entre avis et rapport de la Cour de cassation, il n'y comprenait rien. Thierry Herzog me disait qu'il avait un vieil ami à la Cour de cassation qui lui donnait des nouvelles. Je prenais ça comme ça, ni plus ni moins. Je ne retiens que ce qui va dans mon sens, résume Nicolas Sarkozy qui conclut. L'histoire Bismuth, c'est ça. Un justiciable inquiet, un avocat affectueux et des écoutes.
Guillaume Bier, chef du service police-justice d'Europe 1. L'auteur présumé de l'attentat de la basilique de Nice, qui avait fait 3 victimes fin octobre, a été mis en examen et écroué. Gravement blessé lors de son interpellation, l'état de santé de ce Tunisien de 21 ans s'est amélioré, ce qui a permis son interrogatoire par un juge d'instruction antiterroriste. De nouvelles fouilles aujourd'hui dans les Ardennes pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin. Elles ont lieu dans le parc du château de Sautou, une ancienne propriété de Michel Fourniret. Lionel Gougelot, vous êtes sur place pour Europe 1. Le tueur en série n'est pas présent cette fois, car il est hospitalisé depuis un malaise le mois dernier, mais il a orienté les enquêteurs sur l'endroit où les recherches devaient être effectuées.
Oui, c'est cela. Et cette fois, ces enquêteurs, les experts de la gendarmerie, les conducteurs des 2 pelleteuses mécaniques de 20 tonnes amenées sur place, toutes les équipes dirigées par la juge Kéris, ont désormais une idée plus précise de l'endroit où elles doivent concentrer leurs recherches, puisqu'effectivement, c'est Michel Fourniret lui-même, lors des dernières investigations du mois d'octobre dernier, qui avait indiqué la zone dans cette forêt du château du Sautou où il avait enterré le corps d'Estelle. Alors on parle ici d'une surface de plus de 3 hectares, dont la moitié a été déboisée pour faciliter les recherches en sous-sol, travail de fourmi avec notamment l'aide d'un archéologue. Mais cette fois, Didier Seban, l'avocat d'Éric Mouzin, a bon espoir que les indications de Michel Fourniret permettent finalement de retrouver la dépouille d'Estelle.
Il a certes menti, des fois en niant des meurtres qu'il avait commis ou en ne les reconnaissant pas, mais en général, quand il a donné des indications, elles ont été vérifiées. Donc malgré sa mémoire qui est devenue défaillante compte tenu de son âge, il faut l'écouter et donc faire les recherches sur les indications qu'il a pu donner, qui ont été aussi corroborées par d'autres éléments de l'enquête.
Suspendu à la nuit tombée, les fouilles reprendront demain matin à la première heure. Elles sont programmées au moins jusqu'à vendredi.
Lionel Gougelot dans les Ardennes pour Europe 1. Le président égyptien en visite d'État en France, Emmanuel Macron, en a profité aujourd'hui pour remercier son homologue de son soutien après ce qu'il a décrit comme une campagne de haine anti-française dans le monde musulman après ses propos sur les caricatures de Mahomet. La question des droits de l'homme en Égypte a été abordée par Emmanuel Macron qui a plaidé pour une ouverture démocratique. La maire de Paris, de son côté, Anne Hidalgo, dit avoir remis au président égyptien un courrier demandant la libération des prisonniers politiques qui font l'objet, je cite, d'une répression intolérable. En économie, la Société Générale et le Crédit du Nord ne feront bientôt plus qu'une seule et même banque. La fusion sera achevée au premier semestre 2023. Cette transformation implique la fermeture de 600 agences. La direction de la Société Générale assure qu'il n'y aura aucun départ contraint. C'est l'une des acquisitions les plus importantes de l'histoire de la musique. Les droits de l'intégralité du catalogue de chansons de Bob Dylan a été acheté par Universal Music. Plus de 600 titres au total, parmi lesquels Blowing in the Wind ou encore Like a Rolling Stone. La maison de disques n'a pas révélé le montant de cette acquisition, mais selon le New York Times, elle pourrait dépasser les 300 millions de dollars. Après 70 ans de carrière, le célèbre catalogue papier d'IKEA va cesser d'être publié. Le comportement des consommateurs a changé, justifie le géant suédois de l'ameublement. Ce catalogue était diffusé chaque année à des dizaines de millions d'exemplaires à travers le monde. En sport, le Comité international olympique a validé aujourd'hui l'arrivée du breakdance au programme des JO de Paris 2024. En revanche, l'épreuve masculine du 50 km marche va disparaître et sera remplacée par une épreuve mixte d'athlétisme qui reste pour l'heure à définir. Et puis en foot, l'équipe de France affrontera l'Ukraine, la Finlande, le Kazakhstan et la Bosnie dans son groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Et oui, pas de qualification d'office, même quand on est champion en titre. Un tirage qui semble plutôt satisfaire le sélectionneur des Bleus. Possible, Didier Deschamps.
On connaît nos adversaires, deux qu'on connaît très bien puisqu'on les a rencontrés récemment, à savoir l'Ukraine et la Finlande. L'équipe de France n'a jamais joué contre le Kazakhstan. C'est le fait d'avoir des équipes où forcément les déplacements seront très longs. Donc ça peut amener plus ou moins de difficultés supplémentaires. Le fait de jouer déjà en mars, trois matchs en 9 jours, donc pour la récupération. Je ne vais pas sauter au plafond par rapport au tirage. Il faut toujours avoir suffisamment d'humilité et de respect par rapport à toutes ces équipes. Évidemment, en étant tête de série, la France est favorite, mais faire le nécessaire sur le terrain pour atteindre cet objectif de se qualifier pour la Coupe du Monde 2022.
Didier Deschamps au micro Europe 1 de Cyril de la Morinerie. On passe à la météo. Attention, si vous habitez la Lozère, le département a été placé en vigilance orange, neige verglas jusqu'à demain matin. Prudence donc sur les routes. Anissa Haddadi, le temps de demain sera très gris.
Oui Julien, la perturbation qui est présente sur le pays aujourd'hui va stagner. Demain, elle se décale mais tout doucement vers l'est. Du coup, demain matin, des Pyrénées jusqu'à la Lorraine en passant par l'Auvergne et la Bourgogne, dans toutes ces régions, le temps est pluvieux. Toute la journée, à l'arrière de cette perturbation à l'ouest, donc sur toute la façade atlantique, sur les côtes de la Manche, le soleil est de retour. Avec attention en Normandie et sur le Cotentin, quelques petites gouttes, pensez à votre parapluie. À l'avant de la perturbation, de l'Alsace jusqu'aux Bouches du Rhône, en passant par les Alpes et la vallée du Rhône, le temps est sec et parfois même bien ensoleillé, surtout sur les Alpes, hein, il va faire beau demain. Sur tous les reliefs, il neige, parfois même à basse altitude, hein, puisque nous aurons des flocons par exemple dans le Massif central dès 700 mètres d'altitude. Attention, demain après-midi dans le Var et en Corse, les orages vont prendre le relais des pluies. Les températures, nous aurons des gelées dans le nord, jusqu'à 6 degrés en bord de Méditerranée le matin. Et puis dans l'après-midi, seulement 3 degrés à Metz, 4 à Aurillac, 6 à Paris et Dunkerque, 7 à Lyon, 10 à Lorient, 11 à Nice et 13 pour Ajaccio.
Merci beaucoup Anissa Haddadi.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h18 sur Europe 1, c'est l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec Didier Hamaud de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street débute la semaine prudemment après ses récents records.
Oui, toujours le même schéma. Hein. Wall Street souffle après les records en série de la semaine passée. Le Dow Jones, en fait, recule, mais le Nasdaq monte. C'est toujours le même scénario avec un Dow Jones donc qui respire un petit peu, moins 0,49%, 30 070 points, ça reste quand même très haut perché. Et le Nasdaq qui monte encore malgré tout, qui grappille 0,4%, 12 520 points. Tout simplement parce que quelques valeurs de technologie restent recherchées comme Tesla, toujours plus haut, plus 7%. Tesla est à $641.76. Apple aussi grappille 1,2%, $123.75. C'est plus stable sur Amazon, sur Microsoft et IBM redonne même 2%. Il y a un gros morceau qui va arriver prochainement à Wall Street, c'est Airbnb. L'entrée prochaine d'Airbnb en bourse à Wall Street pourrait se faire entre 56 et 60 dollars mi-décembre, ce qui valoriserait le dossier à près de 42 milliards de dollars pour Airbnb, donc c'est très cher payé. Mais visiblement, le marché en veut. Le pétrole repère un petit peu de terrain, moins 0,7%, $45.65 le baril WTI. L'euro campe au perché au-dessus des 1,21 face au dollar.
La bourse de Paris a elle aussi reculé dans un marché prudent.
Oui, très prudent, moins 0,64%, un début de semaine timide, 5 573 points. Le secteur bancaire a reperdu du terrain après les annonces de réorganisation du réseau de la Société Générale et du Crédit du Nord. Société Générale, moins 3%. Crédit Agricole et BNP repèrent 2,5%. Et puis le secteur du luxe a soufflé aussi. Kering, moins 2%, 589 euros. UBS a dégradé le dossier Kering. Le broker voit 2021 comme une année de transition pour la marque phare de Kering, Gucci. Les autres gros dossiers reperdent un petit peu de hauteur. Bouygues, moins 2% avec Veolia. Total, moins 1,5% avec Vinci.
Exception du jour, Didier. Air France KLM est remontée en clôture ce soir sur fonds de spéculation.
Oui, ça s'est pas mal agité autour de Air France KLM, plus 1,5%, 5,33 € après les rumeurs de renforcement de l'État dans le capital du groupe aérien. L'État, qui possède déjà 14% du tour de table du groupe, serait intéressé donc à une montée en puissance pour aider la compagnie à s'en sortir dans cette crise très lourde, très difficile. On a une nouvelle injection qui serait en vue donc de 4 à 5 milliards d'euros l'année prochaine. Ça soutient la tendance d'Air France KLM en hausse ce soir d'1,5%. Les autres places financières sont en baisse. On perd 0,2% sur le DAX à Francfort, moins 0,8% à Bruxelles, Madrid moins 0,6%, Londres moins 1,2% avec les négociations sur le Brexit qui n'en finissent pas. On rappelle le CAC 40 en baisse de 0,64%, 5573 points.
Merci beaucoup Didier Hamo de boursier.com. 22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Jacques de Peretti.
Bonsoir monsieur.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le PDG d'AXA en France. Alors si on a voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est qu'un accord a été trouvé sur le gel des primes d'assurance pour les secteurs les plus touchés par la crise pour le compte de l'année 2021. On pense notamment aux restaurateurs, hein, mais ce ne sont pas les seuls qui sont concernés par cet accord. Pourquoi il a fallu que le ministère vous torde le bras pour que vous acceptiez ?
Écoutez, je crois que il faut tordre le cou à une idée qui est fausse, qui consiste à dire que nous restons cachés. Depuis le début de cette crise, nos 200 000 salariés et agents généraux ont été auprès de leurs clients pour proposer des solutions. Nous avons aujourd'hui dépensé juste plus de 4 milliards d'euros entre les gestes extra-contractuels et les indemnisations. Donc non, c'est inexact de penser que nous avons besoin d'avoir le bras tordu. Nous sommes toujours heureux d'aider nos clients. Ce que nous n'aimons pas, c'est subir une taxe qui, in fine, dans un moment où ce pays a besoin de repartir, eh bien, aurait handicapé la reprise.
Alors, qui aurait handicapé la reprise ? Parce que c'est vrai que c'est sous la menace. Hein. Le Sénat avait voté une taxe de 2% sur les primes versées au titre des contrats d'assurance dommage. Et le gouvernement avait dit, s'il n'y a pas cet accord, nous accepterons cette surtaxe. Finalement, il n'y aura pas cette surtaxe. Donc, vous êtes quand même un petit peu soulagé.
Écoutez, on est heureux demain de pouvoir aller auprès de nos 400 000 clients concernés et leur dire, voilà, l'année prochaine, vous n'aurez aucune augmentation de prime malgré l'année difficile que les assureurs ont vécue. Deux, si vous avez des difficultés à payer votre prime, eh bien, nous maintiendrons notre garantie pendant le premier trimestre de façon à ce que vous vous refassiez. Et puis aussi, nous sommes heureux de pouvoir offrir, en ce qui concerne AXA, des éléments de reprise. Nous avons décidé de mettre 500 millions dans les PME, les TPE, des secteurs concernés pour les aider à avoir des fonds propres nouveaux et à pouvoir investir, mais surtout une opération qui, moi, me paraît très importante, c'est notre opération rebond que nous lançons demain, c'est pour aider les commerçants de proximité à retrouver des clients.
De façon concrète, c'est quoi cette opération ?
Cette opération, c'est très simple. C'est offrir 200 000 bons d'achat à nos clients pour que ces derniers aillent dans les commerces de proximité autour de nos 3200 agences et fassent vivre ce commerce qui en a bien besoin. Ces bons d'achat ont une valeur de 20 € chacun. Ils seront distribués par nos agents généraux et ils permettront le redémarrage de ces commerces qui en ont vraiment, vraiment besoin et qui sont aujourd'hui ouverts.
Donc ça, c'est une grosse opération de soutien. Où est-ce que vous en êtes sur un autre dossier ? Notamment, là encore, les restaurateurs demandent qu'on leur supprime leur loyer pour le compte, notamment du mois de novembre. Il y a une grosse opération qui a été lancée par l'État. Et souvent, là encore, les assureurs au global, hein, pas obligatoirement AXA, mais les assureurs au global sont montrés du doigt parce que vous seriez les plus réticents. Vous en êtes toute façon très concrète sur ce dossier d'annulation de loyer ?
Alors, très concrètement, nous avons là encore, donner notre accord au ministre il y a quelques mois sur le sujet, et nous exécutons scrupuleusement cette disposition. En ce qui concerne ma société, chaque fois que nous sommes présents dans un tour de table ou seuls en tant que propriétaire d'un restaurant, d'un café ou d'un hôtel, nous mettons en place cette suspension de loyer qui avait été décidé il y a quelques mois.
Jacques de Peretti, je rappelle que vous êtes le PDG d'AXA en France. Est-ce que vous concédez au minimum un petit problème de communication, de dialogue ? Parce que beaucoup de restaurateurs, quand ils ont reçu des courriers comme quoi ils étaient radiés sans même avoir eu un coup de fil, est-ce que malgré tout, le monde de l'assurance, qui est très normé, n'a pas oublié un moment, dans un temps si compliqué, le minimum d'une relation commerciale.
Écoutez, nous pâtissons aujourd'hui de remonter en effet de difficultés comme cela et le nier serait complètement inexact. Par contre, ce que nous avons souhaité faire, et cela depuis le mois de septembre, c'est d'abord prendre un contact physique ou au téléphone avec ses clients pour leur expliquer les raisons de ces avenants. Les raisons de ces avenants, vous le savez, c'est une obligation que l'autorité de contrôle des assurances nous impose que de modifier nos contrats dès l'année prochaine pour que la clarté sur les garanties soit faite et que la pandémie soit clairement exclue dorénavant, alors que parfois, dans certains contrats, eh bien, ce n'était pas clair. Voilà. Alors, est-ce que nous avons manqué de diplomatie ? Peut-être. En tout état de cause, nous menons cette opération sérieusement en ce qui concerne ma compagnie. Et dans l'immense majorité des cas, eh bien, nos clients poursuivent la confiance qu'ils ont en nous et renouvellent leur contrat.
Mais vous acceptez effectivement de vous dire que parfois ça n'a pas été le cas. Est-ce que du coup, ça vous oblige à revoir vos manières de fonctionner ?
Clairement, chaque jour qui passe, eh bien, nous apprend que le monde digital ou le monde épistolaire n'est pas aujourd'hui celui, dans cette période de crise, qui est le plus approprié. Le contact humain sur le terrain, au travers de nos conseillers, eh bien, est probablement le plus propice pour expliquer. Et moi-même, je vais aller sur le terrain pour rencontrer à nouveau ces secteurs.
Ce soir, les restaurateurs, globalement, se disent déçus, parlent d'une mini-mesure. Vous pouvez aller plus loin ? Vous êtes l'un des tout premiers assureurs au monde. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin ?
Aujourd'hui, notre principal sujet, c'est de faire en sorte que nos clients retrouvent la capacité de travailler dès qu'ils peuvent ouvrir. Nous avons aujourd'hui des commerçants qui ont des boutiques ouvertes. Et ce que nous avons décidé de faire en offrant 200 000 bons d'achat à nos clients pour aller dans ces commerces, c'est pour nous une réponse à ce que nous souhaitons voir de notre pays, c'est-à-dire une reprise. Il faut, je crois, à un moment, à la fois aider ceux qui sont touchés, mais il faut aussi aider ceux qui ont pu repartir de manière à ce qu'ils retrouvent leur clientèle et la confiance de leurs clients. Et le petit geste que nous faisons de proximité dans les territoires est pour moi, je trouve, une très belle illustration.
Bien, grand merci à Jacques de Peretti, le PDG de l'assureur AXA en France, d'avoir été notre invité ce soir et d'avoir répondu en exclusivité pour les auditeurs d'Europe 1. Je ne vous dis pas à demain 22h20, mais après-demain, puisque demain soir, soyez bien au rendez-vous. Grande soirée de football à nouveau sur Europe 1, à mercredi.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil. Emmanuel que l'on retrouvera en revanche demain à partir de 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Chaque jour, un grand patron nous explique comment il se réinvente pour faire face aux défis actuels. Demain, ce sera la directrice générale adjointe de Cdiscount. Restez avec nous. Dans un instant, on va découvrir ensemble les unes de la presse de demain. A tout de suite. 22h29 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Covid, défaite de fin d'année, titre malicieusement Libération qui revient sur ce seuil fixé par Emmanuel Macron, 5000 contaminations par jour pour enclencher le déconfinement le 15 décembre. Or nous en sommes loin, trop loin, du coup le gouvernement réfléchit à prolonger certaines restrictions. Il pourrait sacrifier la réouverture des lieux culturels prévus le 15 décembre sans pour autant oser compromettre les fêtes de fin d'année, analyse Libé. Sans doute convient-il de jeter un regard sur ce qu'il vient de se passer aux États-Unis, écrit Jean-François Laville dans L'Est éclair. Chacun a pu constater les conséquences dramatiques de la fête de Thanksgiving. Des millions d'Américains ont sillonné le pays pour retrouver leur famille. Résultat, une nouvelle explosion de cas. Et puis immobilier, le palmarès des villes où investir, titre Le Figaro Echo qui publie son classement. Résultat, Annecy, Aix et Toulouse sont les trois villes françaises les plus attractives pour les investisseurs. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien, comment allez-vous ?
Très bien, très très bien. 39-21 pour vous appeler et témoigner dans la libre antenne qui débute maintenant et ce jusqu'à 1h du matin.
Exactement, et on se retrouve pour l'info dans une demi-heure, vers 23h.
À tout de suite.
À tout de suite.